Bonjour, bienvenue. C'est assez intime. Alors on va continuer et terminer l'exploration du travail de Jean-Gabriel Pariot autour des archives, des images d'archives, avec un film qu'on aime particulièrement et qui nous semble moins montré en fait que son travail documentaire. C'est un film de fiction qui s'appelle Lumière d'été, tourné au Japon en 2018, sorti en France. Et c'était important pour nous de faire le lien et d'interroger aussi cette question de l'image d'archives à travers une œuvre de fiction. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui en revenant un peu sur la genèse de ce film que vous finirez par voir d'ici une trois quarts d'heure, une heure. On sera rejoint dans cette conversation par Alain Brossat qui est déjà avec nous, qui doit nous entendre mais qu'on ne voit pas encore. Je vois une petite souris qui s'active. On lui laissera la parole à lui seul, voilà, à l'issue de cette discussion ensemble avec Jean-Gabriel. Alors, au moment où tu fais revenir sur la genèse en fait de Lumière d'été, c'est revenir sur un film, lui, très, très montré et qui est pratiquement emblématique de ton travail. On a dit ça hier d'une jeunesse allemande, mais on peut le dire, je pense, de 200 000 fantômes. C'est le film qui t'a fait découvrir, qui a dû faire à peu près tous les festivals du monde et qui a été vu, qui est dans des dispositifs scolaires, qui est autant dans les galeries, j'ai l'impression, reconnu par le monde de l'art, autant que par le milieu enseignant qui y voit un travail pédagogique incroyable. Donc c'est un film vraiment à part aussi dans ta filmographie, non pas par le dispositif qui va devenir un peu ta patte ou ta marque de fabrique au fur et à mesure du temps, mais par vraiment l'importance qu'il revêt. C'est du coup d'autant plus intéressant d'interroger ces deux films en miroir, un court-métrage documentaire devenu un peu emblématique de ton travail et puis un film long-métrage de fiction un peu plus confidentiel, on peut le dire. Et pourtant, les deux se répondent. Il y a plein de parallèles à faire et plein de souterrains qui vont de l'un à l'autre. Alors, peut-être, comme avec toi à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir entamé chaque discussion pendant ces trois jours en disant un peu la même chose, mais qu'est-ce qui relie un jeune homme né en 1974 en France, monteur de formation, devenu monteur, cinéaste, jeune cinéaste au moment de 200 000 fantômes, qu'est-ce qui le relie au Japon et à la tragédie d'Hiroshima, arrivée 6 août 1945 est-ce que tu peux nous revenir vers nous pour nous dire comment tu as rencontré cet événement?
Oui, bonjour, merci d'être là. C'est juste avant que je revienne à ta question et le point de départ, très brièvement. Là, on partage avant Lumière d'été et vous, quand vous verrez Lumière d'été, un endroit qui est pour moi peut-être l'endroit le plus important dans ma vie personnelle et en tant que cinéma. Il y a des traces de ça dans le cinéma, mais en tout cas, c'est un endroit, Hiroshima, pas physiquement, mais quelque chose qui pour moi a fondamentalement bouleversé ma manière d'être, disons, et la ville en particulier. Et tout commence, alors comme souvent, des histoires de hasard, et moi ça passe souvent par les livres. Il y avait, je crois qu'elle s'appelle plus Mona Lisa, mais il y avait la librairie, là, juste derrière Beaubourg, de livres d'occasion, et j'allais souvent au sous-sol. Parce qu'ils avaient des stocks de bouquins d'histoire qui intéressaient personne, vendus à 10 francs à l'époque, quoi, ou ça serait 1 euro aujourd'hui. Et à ce moment-là, je lisais beaucoup, beaucoup autour de la Seconde Guerre mondiale, mais particulièrement autour des camps. Et à un moment, j'achète un stock de bouquins, et là-dedans, j'achète ça, Hiroshima, Fleur d'été, de Tamiki Hara, en me disant, tiens, ça, a priori, ça va m'intéresser. Enfin, ça dit comme ça, ça fait un peu étrange, mais... Et je ne l'ai pas lu tout de suite, mais je l'ai lu un jour, et je n'ai jamais éprouvé ce sentiment-là. Ça veut dire, j'ai eu honte en lisant ça. Donc ça, c'est un témoignage d'un survivant de la bombe qui explique ce qu'il a vécu ce jour-là, la perte de toute sa famille et la propre détérioration de son corps après la bombe, les années après la bombe. Et j'ai eu honte parce que j'ai eu honte, moi, jeune Français, né en 1974, de ne pas savoir ça, de ne pas savoir ce qu'était Hiroshima. En fait, le seul truc que je savais d'Hiroshima, c'est la fin de la guerre pour éviter que les Américains débarquent, on envoie la bombe, c'est la fin de la guerre, c'est la fin du programme, et hop, roule ma poule, c'est fini, quoi. Et ça, ça a été un moment... Ouais, de honte absolue, j'ai jamais vécu ça, de lire, pourtant ça m'appartient pas cette histoire en propre a priori, mais je sais comment on peut ne pas savoir ça, quoi. Personne me l'a dit, mais je suis pas allé le chercher non plus, quoi. Donc, et à partir de ça s'ouvre un moment de recherche très intense sur Hiroshima, que ça soit par des livres d'histoire, de philo, beaucoup de témoignages, de littérature, comme il y a une littérature des camps, il y a une littérature aussi de la bombe. Et voilà, elle démarre un chemin qui va prendre plusieurs années avant même d'arriver à 200 000 fantômes.
Alors, au cours de ce chemin, encore une fois, tu es un grand lecteur et le texte a une grande importance dans la façon dont tu te nourris. On a le sentiment en voyant tes films que tu ne consommes que des images, vu la quantité que tu en mets dans tes films. mais à chaque fois, tu fais référence au texte. Et donc, dans tes lectures, en fait, il y a la rencontre avec Alain Brossat, avec un texte particulièrement d'Alain Brossat, qui s'appelle « Si loin, si près, Hiroshima et Auschwitz ». Et est-ce que tu peux alors revenir, c'est un texte, ça va être difficile de le résumer ici, peut-être Nicolas aussi, on avait prévu de le mettre à l'écran, si tu peux, pour que vous puissiez en lire quelques passages en même temps que nous parlons ou un peu plus tard. Ça va être compliqué de résumer l'article, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans ce livre, Alain Brossat questionne en fait la façon dont collectivement nous avons représenté en Occident la tragédie d'Hiroshima, en fait. Donc c'est ce qui te questionne là particulièrement, ça fait écho avec quelque chose que tu sens ou ça t'apprend quelque chose ou en tout cas à quel endroit ça te déplace en fait.
Bah, en fait, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que c'est là qu'un vrai travail commence toujours, c'est quand je ne comprends pas, c'est-à-dire je sens qu'il y a quelque chose là-dedans, dans les ténèbres, il faut aller chercher. Et du coup, c'est vrai que le fait que des gens aient écrit m'aide à comprendre, me donne des clés, en fait. Et sur Hiroshima, c'est particulier. Alors, à l'époque, je lisais beaucoup moins en anglais, donc peut-être que j'ai loupé des choses. Mais en tout cas, édité en langue française, il n'y a quasiment rien. Et... dès qu'on cherche un peu dans la philosophie pour essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu, les enjeux liés à Hiroshima, il n'y a rien. C'est un événement non pensé, Hiroshima. Ou, disons, très peu pensé, et en tout cas pas du tout pensé à l'échelle que ça représente comme césure historique, comme moment clé de l'humanité, quoi. Autant les camps, par exemple, c'est archi-pensé. Hiroshima n'est pas pensé. Infiniment trop peu pensé. Et les seules choses que j'ai trouvées quand je lisais, c'est deux auteurs, c'est Gunther Anders, un Allemand qui a écrit énormément, lui, sur la bombe, notamment L'obsolescence de l'homme, que je vous conseille, tout est dans le titre, hein, L'obsolescence de l'homme. Et dans un bouquin collectif de la revue Autrement pour les 50 ans de la bombe, je tombe sur ce texte d'Alain qui m'a permis, en fait, et c'est arrivé plusieurs fois, moi, sur mes films, à travers je ne connaissais pas Alain personnellement hein, quand je suis tombé sur ce texte, mais je l'avais déjà dans ma bibliothèque, en fait, sur plusieurs sujets, parce qu'il a écrit sur la catastrophe, il a écrit sur les prisons, des choses qui croisent mes intérêts de cinéaste. Et Alain, ça fait partie de ces auteurs qui me permettent de rendre claires les questions que je me pose. Et ça pointe, en fait, ces endroits que je n'arrive pas vraiment à circonscrire, et au moins, ça me permet de... Il verbalise pour moi en fait les questions que ça me pose. Et en ça, c'est très très précieux, quoi. C'est très important. C'est pas forcément que c'est des réponses, mais juste de préciser la question, c'est déjà un premier pas, quoi.
Alors dans ces recherches que tu entames à travers donc beaucoup de lectures, il y a aussi beaucoup d'images que tu collectes depuis la France. Est-ce que tu peux, pour préciser qu'on se représente, à ce moment-là, tu es déjà allé au Japon?
Non, pas du tout. Je vais aller au Japon, enfin, je vais aller à Hiroshima quand je vais faire 200 000 fantômes pour les collectes d'archives. À cette époque-là, je prends le temps, mais juste un truc, c'est j'ai pas beaucoup cherché d'images autour d'Hiroshima, sauf la première sur laquelle on va revenir là, mais j'ai pas fait, j'ai vu les films sur la bombe, enfin, beaucoup évidemment de films japonais, etc., mais comme ça, j'avais pas fait aucune, je me suis pas perdu dans les recherches d'images comme je peux le faire sur d'autres sujets.
Et tu avais vu, j'imagine, Hiroshima, mon amour, déjà
Non.
non, c'est-à-dire que ça vient vraiment,
Plus
elle est
tard,
presque
ça.
vierge et ça arrive plus tard. Mais en tout cas, tu tombes sur une image qui te marque et qui t'impressionne, une image dont on va montrer une séquence, en fait, dont on va montrer là un extrait particulièrement intéressant pour toi et donc qui te frappe et qui entame quand même, en plus des lectures, une recherche formelle, en fait, et un désir de film.
Alors juste pour vous donner le contexte de cette image, juste après le bombardement, quand les Américains débarquent, ils vont passer à Hiroshima. Ils n'y restent pas. C'est pas eux qui occupent la ville, ni Nagasaki, ni Hiroshima, évidemment, on le comprend. Mais en tout cas, ils viennent faire des enquêtes scientifiques à Hiroshima. On en reparlera tout à l'heure, mais c'était quand même le but de cette bombe. Et il y a un film qui est fait à ce moment-là où muet. Donc il y a une version avec une voix off, mais qui a été rajoutée après. Mais en tout cas, quand c'est filmé, c'est muet. Et on a un jeune soldat américain qui nous montre en faisant des gestes, parce que évidemment c'est muet, donc il faut expliquer les différents résultats de cette bombe, que ce soit la manière dont certains bâtiments se sont détruits. Donc il montre la poussée du vent. Il montre les traces de brûlure sur un poteau en disant, vous voyez, là, ce poteau, il est brûlé, mais d'un côté, pas de l'autre. Donc, ça permet de voir la bombe. Il montre, ça dure une vingtaine de minutes, comme ça. C'est assez abstrait quand on n'a pas la voix off qui a été rajoutée a posteriori. Et voilà, on voit une visite scientifique juste après, quelques jours après le bombardement. Et il y a un plan, enfin, deux plans à l'intérieur de on va dire, une brève séquence qu'on va voir maintenant et qui a été, voilà, qui a très importante pour moi.
Merci pour la recontextualisation de ces deux plans dans une séquence plus longue. Et toi, comment tu tombes sur cette séquence, justement?
Sur YouTube, je pense que j'avais cherché, il y avait très peu de choses. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choses en ligne, mais il y avait cette archive qui était une des seules choses qu'on pouvait trouver en ligne. De toute façon, c'est une des seules choses qui existent en vrai d'images tournées à Hiroshima pas très longtemps après la bombe. Et elle était déjà assez diffusée. C'est une archive très connue, et donc c'est une des premières qui sortait à l'époque quand on googlisait juste Hiroshima.
Nicolas, si tu veux bien, on va regarder.
Donc c'est surtout les deux derniers plans sur le pont, mais peut-être qu'on va la, on, je vous l'explique et peut-être qu'on peut juste la revoir parce que ça passe très très court et moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se racontait dans cette image.
Nicolas, est-ce que tu peux la remettre à ce moment-là? On la remet pendant que tu
Oui,
parles?
dans quelques
Ah,
minutes.
quelques minutes.
En fait, ce qui montre très clairement, c'est les ombres. Ça veut dire que il y a la bombe qui explose, les rayonnements arrivent. Donc quand il y a un obstacle, là, le pont sert un peu de planche d'impression. Donc le pont, tout l'asphalte est brûlé, sauf les endroits où il y a les poteaux qui faisaient de l'ombre et donc empêchaient que les radiations aillent directement sur le pont. Mais ce qui nous montre à la fin, cette première forme qu'on n'identifie pas du tout, qu'on identifie que quand il place ses pas et qu'il dessine, c'est que là, ce n'était pas un poteau, là, ça revient, c'était un être humain. Voilà, cette espèce de forme blanche qu'on n'arrive pas évidemment à identifier avant qu'il nous montre ce que c'est. Il met ses deux pieds, où étaient les pieds de cet homme ou de cette femme. Et ensuite, voilà, il nous montre d'où venait la radiation. Et il nous montre les empreintes. Et ça, c'est voilà, juste au milieu de ce documentaire de 20 minutes. Donc c'est une des histoires d'Hiroshima qu'on commence à s'y intéresser, qui arrive assez vite, c'est au Musée de la Paix, etc. C'est ces ombres humaines qu'a laissé la bombe. Et cette image m'a posé vraiment beaucoup de problèmes. J'ai mis longtemps, donc l'analyse que j'en ai, elle est évidemment aujourd'hui, 15 ans ou 20 ans après l'avoir vue, mais à l'époque, elle était... ce que ça dit de la disparition, quoi. La disparition est liée, évidemment, pour moi qui travaille l'image, liée aux images qu'on laisse. Et quelque chose en plus, je vais commencer par cette chose en plus parce qu'elle est plus facile, c'est quand ce jeune type là, moi je l'ai haï, hein. Je l'ai haï, avec il est mignon, petit blond, en forme, américain, c'est le perpétrateur dans toute sa splendeur qui vient nous montrer l'objet du crime, quoi, tranquillou. Ah bah regardez, là c'est des gens, là-bas, ils ont disparu, voilà. Il y a moi et mes collègues, ils ont envoyé une bombe et regardez le résultat, c'est super chouette. Il est content, il sourit assez souvent, donc c'est pas lui personnellement, mais ce que ça raconte de la naïveté totale, quoi, de « Ah ben on a tué », bon il savait pas combien ils avaient tué à l'époque, mais au moment où il fait ce petit film, il y a déjà 50 000 morts, et il y en a 150 qui vont mourir à la suite, quoi. Et il nous fait son petit film de démonstration scientifique, assez content de lui, je me dis « Mais quelle horreur, quoi, enfin, c'est pas possible, cette attitude, ce manque de respect total, quoi, du perpétrateur, et qui nous montre l'objet du crime, quoi. » Il ne va même pas essayer de le cacher, il nous montre la disparition. Donc voilà, ça c'était rude. Mais après, c'est en termes d'image, je vais essayer de le dire. Hein. C'est une des rares images pour moi, inversée de ces rares images de l'histoire qu'on appelle les images archéopoïètes, les images non faites par la main de l'homme. Plutôt lié à la tradition chrétienne avec le sensuaire, le voile de Véronique, c'est-à-dire ces images miraculeuses qui ne sont pas censées être produites de la main de l'homme. Plutôt donc une idée d'un dieu qui a pu imprimer, qui a pu nous laisser quelques images. Là, on l'a version inversée. Moi, ça me rappelle, je le raccroche à une interview de Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique, une interview que j'ai utilisée dans un autre court-métrage que vous pouvez voir en ligne qui s'appelle « We are become death »,« Nous sommes devenus la mort ». Et Oppenheimer raconte, c'est terrible la manière dont il raconte ça, je veux dire, on a l'impression qu'il est décomposé, le pauvre type, il raconte la sensation qu'il a vécue quand il a vu Trinity, le premier essai de la bombe atomique, quelques mois avant Hiroshima. Et il dit que certains se réjouissent et que certains comme lui sont arrêtés parce qu'ils viennent de faire. Et il cite la mythologie hindoue, Vishnu, le dieu de la guerre, le dieu de la mort, et il dit, voilà, c'était un peu ce que nous étions, nous sommes devenus la mort. Il conclut par nous sommes devenus la mort. La mort avec un M majuscule, et le nous, c'est eux qui l'ont créé, et c'est l'humanité. Et là, le résultat de ça, c'est d'avoir créé une image archéopoïète, mais totalement négative. Ça veut dire que c'est le dieu, c'est la mort qui crée cette image-là. C'est nous, en tant qu'humains, nous sommes devenus les dieux de la mort. Nous pouvons détruire l'humanité avec un objet technique que nous avons inventé. Et ça, c'est cette image-là. C'est, si je le rapproche plus simplement sur la photographie, qui était plus ma lecture à l'époque, parce que je travaillais beaucoup la photographie, c'est une image négative. Ça, c'est une plaque photographie, le pont. Il y avait un être humain, l'appareil photo, c'est la bombe. Il a créé une image négative d'un réel, de cet homme ou de cette femme, à part que ce négatif, normalement un négatif, il est fait pour faire un positif. Là, il n'y a plus de positif possible. On ne peut pas revenir au positif, il n'y en a pas. C'est un négatif complet, il est irréversible, alors qu'un négatif en photographie, irréversible. Et même ramène à une image de la vie. Là, il n'y a pas d'image de retour possible. Et moi, quand j'ai vu, j'imagine cette personne et les gens qui sont arrivés de ça, c'est-à-dire cette disparition absolue de la partie des gens morts à cause de la bombe qui ont simplement disparu, proches du cœur, à cause de la violence, il n'y a plus aucune trace d'eux, il n'y a même pas de la poussière d'être humain, mais il y a quelques traces qui sont des images négatives d'eux. Et c'est une double mort, quoi. C'est des images d'une double mort, d'une mort totalement définitive sur laquelle il n'y a aucun souvenir, on ne saura jamais qui était cette personne. Et la seule image qui nous reste d'elle, c'est dans un film américain avec un petit blond qui sourit de nous montrer ça. Et là, après, ça devient comment, là, évidemment, ça rentre. Et là, mon intérêt dépasse mon intérêt personnel et va déboucher à un travail filmique à partir de cette image.
évidemment passionnant. Et je pense que là, vous allez, ce que tu viens de dire fait forcément écho au film qu'on va voir après, etc. Donc, c'est passionnant de t'écouter. Mais du coup, il y a l'idée de chercher des images, de chercher des photographies et puis de chercher des témoignages. Une façon de, évidemment irréparable, mais une façon d'entamer un travail de mémoire, c'est aussi de faire parler les survivants, ceux qui sont restés, de savoir ce qui va se passer. C'est un travail, à la différence de ce qu'on disait hier dans le cadre du film sur le siège de Sarajevo, où ce travail-là a été fait. Il peut être questionné, il peut être remis en question, il peut être... mais le travail de mémoire a été entamé très vite, puisque au Japon, je ne me trompe pas, donc c'est un travail, après il peut être questionné, mais en tout cas, il est assez vite, on fait le mémorial de la paix.
Tout petit détail, c'est qu'il est interdit de parler de la bombe au Japon jusqu'à la fin de l'occupation américaine. Donc il y a, je ne sais plus exactement la date, mais pendant 15 ou 20 ans, il est strictement interdit de parler d'Hiroshima au Japon.
Pourtant, Hiroshima même, le mémorial de la paix et le parc qui est autour arrivent assez vite. Oui. Les bâtiments sont construits pour des commémorations. Donc, on n'en parle pas, mais en tout cas, on peut les traverser. Physiquement, il y a une matérialité. C'est-à-dire que ton travail aussi, il y a un travail de mémoire qui est entamé. C'est-à-dire que même si toi, tu fais des recherches, tu t'appuies sur un travail de mémoire entamé. Tu peux ne pas être satisfait de ce qui existe, si je comprends bien, mais tu peux te baser sur des choses existantes. Dans ces choses existantes, il y a donc des photos que tu vas aller assez rapidement au Japon consulter, rechercher. Est-ce que ça, tu peux parler de ça? Et puis, il va y avoir des témoignages, autres que par les livres, par l'image animée de survivants qui ont témoigné face caméra.
Oui, c'est le... D'abord, sur les survivants, ça a été la chose la plus importante pour moi. De toute façon, vous allez le voir derrière, mais c'est le savoir transmis par les témoins directs. Mais plus que des témoins, ils ne sont pas témoins, ils sont eux-mêmes atteints par la bombe. Alors, ils n'ont pas eu le droit de parler, comme je disais, pendant des années, mais à un moment, ils ont commencé à parler, principalement grâce aux syndicats communistes, aux socialistes. D'ailleurs, c'est très lié à des luttes politiques anti-américaines. Et là, certains, donc des Ibakusha, des survivants, commencent à parler. Et les années passant, évidemment, beaucoup disparaissent, mais ceux qui restent se sentent l'obligation de parler, et il y en a de plus en plus. Donc, on a trouvé des textes, plus facilement, des documentaires. Et à Hiroshima, il y a un endroit pour moi très important, qui est un peu caché, où personne ne va, évidemment, et où ils ont vraiment fait un travail systématique de collecte des souvenirs de tous les survivants. Et du coup, on prend, c'est très très beau, c'est des catalogues posés sur les murs, on les prend au hasard, il y a les noms. Et c'est un petit système multimédia où on voit les documents qu'ont laissé les gens, donc soit une vidéo, soit un enregistrement audio, soit des lettres. Comme ils avaient des photos, ils les ont données, etc. Et le petit système multimédia permet la traduction dans toutes les langues possibles. Ça, j'ai passé des semaines entières là, parce que du coup, c'est un accès à une source qu'on ne peut pas, évidemment, par livre, accéder. Et ça a été quelque chose, oui, très important pour moi. Et après, j'ai eu la chance, évidemment, d'en entendre aussi plusieurs. Et ce qui est incroyable à chaque fois, c'est le fait qu'ils racontent, mais le fait qu'ils finissent toujours par une espèce d'incitation à lutter, tout le temps. C'est pas déploratif. Et si c'est difficile, c'est pour faire qu'on comprenne la réalité de ce qu'ils ont vécu, pour nous appeler, en fait, malgré tout, à résister, en tout cas à la bombe atomique. Les images, elles arrivent après, on va dire, elles arrivent presque techniques, en fait. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu besoin, à cause de ces témoignages, de tout ce que j'avais lu, de déposer la mémoire de ça dans un objet. J'avais pas besoin de faire un film, par exemple, un peu scientifique ou pédagogique sur Hiroshima. J'avais besoin, moi, de faire un objet filmique dans lequel j'allais, un objet de deuil, parce qu'on peut pas vivre. C'est comme quand d'un coup, quand on lit trop de la littérature des camps, à un moment, faut s'en séparer, sinon on vit plus, quoi. Là, c'était pareil. J'étais arrivé au moment où il fallait que je dépose ça, ce que j'avais traversé, dans un geste de cinéma, et ça s'est ancré sur le dôme de Hiroshima, qui est une ruine qui était presque à côté de l'endroit d'impact de la bombe, qui est resté en l'état, et qui du coup, donc c'est pas la seule ruine, mais ça marche toujours comme ça, ces traces qu'on laisse dans les villes où il y a une ruine, et qui fait toujours un court-circuit en fait entre le présent dans lequel on est et le passé qui a créé cette ruine-là. Et je m'étais dit, tiens, ce lieu-là, moi, me touche, ça questionne la mémoire, et ça sera peut-être le point de départ d'un film à faire. Mais en tout cas, ces images-là, elles ne portent, comme c'est des images d'une ruine, a priori, elles ne portaient pas grand-chose en termes de poids, d'importance, en tout cas beaucoup moins, par exemple, que des photos de survivants, que ce type de matériel. Mais cette abstraction m'allait très bien, puisque c'était j'avais l'intention de faire un film plutôt abstrait, plutôt doux. Et la recherche d'images, du coup, est liée à ce film-là. Donc, une recherche un peu technique. C'est-à-dire, quand je suis allé dans les fonds d'archives, etc., je suis plutôt allé chercher des images du dôme, pas des images de comment on pourrait photographier Hiroshima, par exemple. C'était vraiment c'est des images pauvres que j'utilise, on va dire.
C'est intéressant parce que du coup, dans le reste de ton travail, tu as plutôt une attitude sur le corps, en fait. C'est le corps que tu cherches. On l'a dit avec le retour à Reims, sur les visages. Tu aimes beaucoup les images de gros plans de visages, les corps mis en mouvement. Et puis là, c'est vrai que sur 200 000 fantômes, voilà, c'est des bâtiments, en fait. Sauf que, du coup, ça questionne... les corps, tu les as vus. Alors, on va voir cette archive, ce petit extrait d'entretien pour que vous vous figuriez en fait quand tu dis de devoir déposer ce travail mémoriel, c'est un moment, c'est trop. C'est se figurer qu'on a comme ça dans la tête, dans le cœur, des heures et des heures et des heures de ce type de témoignage en fait. Et du coup, ta réponse est une réponse du coup de recherche architecturale, mais on imagine bien que ces corps et ces visages et ces corps disparus et ces corps restants et témoignants, il va falloir que tu en fasses quelque chose, et c'est peut-être du coup dans la fiction des années plus tard qu'ils vont s'exprimer et rejaillir en réalité. Et tu es d'accord d'expliquer ce qu'on va voir là, le témoignage qu'on voit là et comment tu...
Donc ça, c'est un témoignage que je réalise en parallèle de Lumière d'été, que vous verrez après. Pendant les recherches sur Lumière d'été, j'ai rencontré, on pourra en parler après, mais en tout cas, le film commence par un témoignage. Et j'hésitais sur la statue de la personne qui a interprété ce témoignage, acteur ou personne réelle. Donc j'ai rencontré des gens, et à un moment, j'ai rencontré Madame Kasaoka, qui m'a... c'est une des choses les plus rudes que j'ai entendues, ce qu'elle m'a raconté, quoi. Et du coup, elle ne pouvait pas participer au film pour plusieurs raisons, mais je me suis dit, nous, on arrive avec une équipe à Hiroshima, on va filmer, je vais proposer qu'on enregistre son témoignage pour avoir une vidéo, pour pouvoir la mettre en ligne, et juste faire un travail de captation, quoi. Pas l'idée de faire un film, mais un travail de captation qu'on puisse partager. Et voilà, donc ça, on a enregistré ce témoignage. Et là, ce que vous allez voir, c'est un extrait, c'est des extraits, un petit remontage de 6 minutes de l'interview de Madame Kasaoka.
こんにちは。笠岡貞恵と申します。今日は私の話を聞いてくださってありがとうございます。とても幸せです。私は原爆の時に12歳、中学の1年生でした。一歩二歩部屋に入った時に前面が2メートル50ぐらいの窓ガラスです。ピカーッと光ったんです。うわー、何かね、綺麗なね。ちょうど初日の出の太陽にオレンジを混ぜたように綺麗な色だった。それがピカッと光ってドン言うたからピカドン言ったんですけど、私にはドンという音は聞こえなかった。ガラスが粉々に壊れて私の上にドーッと来たんです。飛行機が来てね、爆弾落とされたり気にかれてみんな低くなるの練習しとったんですね。だから低くなったんじゃろう思うんです。一瞬黒になりました。はっと我に返って。手を見たら血がついとるんです。頭に血がついとったんですね。ガラスで傷しとったんです。4キロぐらいのところに親戚があるんですけども、ここから あんたとこのお父さん、うちに来とるよ、連れに来て、船で知らせてくれたんですね。うちは夏は農業、冬は漁業しとるから車があります。荷車を引いて兄が連れに行きました。連れて帰った時の父親の姿、誰かわからんのです。ここへ出しとるんですけれども、この黒さ、やけどした人の黒さ、これはちょうど絵の具の黒いチューブをチューと出して伸ばしたように光っとったんですね。顔は腫れ、目は見開いたまま、ちょうど飛び出したような感じがするんですね。唇が一番かわいそうなかったんですけれども、ひっくり返ったのギザギザなの。水をくれい、母親が吉という名前なんですけど、吉と逃げ寄ったが途中ではぐれた、探してくれい、この言葉でやっと、ああお父さん、分かったですね。原子爆弾の病気は後から出るんですよね。普通の爆弾で家も焼かれ、体も傷ついた人は多いです、ね、けれども原爆の場合はその時は元気そうに見えても後から病気になる。私の頭の傷はね、髪とくうちにガラスが取れてだんだん傷も良くなってきたんですね。そしたら今度は体中におできができて、おできができたんです。でその傷口から海が出ないで、ここに3つほど穴が開いて、こう穴が開いてどんどんどんどん海が出たんですね。半年ぐらいかかってやっと治ったんですけれども、結婚の方も他の人をお嫁に行ってもなかなか行けなかった。姉の姑さんが、ええ子じゃけ言ってね、世話してくれて結婚したんですけれども、夫も被爆者でした。夫はね、ここで2キロぐらいのところで被爆して、それから一番放射能の残っとるところ、毎日父親と姉を探しに歩いたから二重に体に放射能を受け取ったんだと思います。2年ほど脊髄のがんで苦しみながら死んでいきました。その時、子供が2歳と5歳だったんですけど、そこからまたね、苦労の始まりだったと思います。アメリカに来い、アメリカに来い言うてきましたけれども、途中からだんだんだんだんアメリカに来いから原爆が憎い変わってきたんです。私は原爆を悪の塊と言っております。何らかでやっぱり行動を起こさにいけんですよね。私らと同じような辛い思いは誰にもしてほしくないんです。あってはならんことなんです。だから多くの人、こういうね恐ろしいこと多くの人に知ってもらって、いけないよいけないよ、なくすよなくそうよ、いうような気持ちをみんなが持ってくださって活動をしてくだされば、それがだんだんとみんなに広がっていくと思います。一人一人の声は弱くても、一人一人の力は弱くても、声は小さくても、みんなが集まったら大きな声、大きな力になると思うから、このことを他の人に伝えてください。
de choses que tu viens de, d'expliquer. Le fait que la population japonaise va retourner sa colère contre les Américains, vers une colère contre la guerre et vers une lutte en fait pour que cesse la guerre et l'armement nucléaire en fait, qui est quelque chose qui a traversé comme ça depuis 1945. Et puis l'autre chose, c'est la charge effectivement de ces témoignages. Là, celui-là, tu dis le pire, mais il y a une charge émotionnelle très forte. Donc on va revenir sur le premier travail du coup que tu fais en termes d'image et du coup ce que tu disais juste avant, en réponse à tous ces témoignages et à toutes ces émotions qu'il faut gérer. Et, c'est du coup une recherche plus formelle sur l'architecture et s'attacher au lieu en fait où se sont passés où s'est passé le bombardement et la souffrance de tous ces témoignages en fait. Donc tu vas chercher à Hiroshima dans des banques d'archives et des images du dôme qui renseignent bien avant, même si je ne me trompe pas, hein, tu cherches depuis la création du bâtiment jusqu'à aujourd'hui au moment du film. Donc tu t'attaches en fait au lieu.
Oui, je m'attache au lieu parce que comme le lieu est son état de ruine fait qu'il ne bouge pas, enfin en tout cas évidemment au moment du bombardement, on peut voir le temps passer. Et le temps passer, c'est et voir l'architecture, comment la ville se reconstruit. Pour moi, ça me posait cette question sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du passé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est-à-dire, il faut vivre conscient de l'histoire, d'où on vient, etc. Et en même temps, on ne peut pas s'arrêter à ça, sinon on ne vit pas. Et quand on les entend parler, par exemple, ce qu'ils demandent ou ce que demande Madame Kasaoka ou les autres, on est très loin de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que si on veut les respecter, il faut lutter contre la bombe nucléaire. C'est-à-dire, ce qu'ils nous demandent, c'est d'être au présent. Ils ne nous demandent pas de prendre un petit mouchoir et de pleurer sur leur souffrance. Ils nous demandent de les écouter pour en tirer la force et agir au présent. Donc du coup, de voir ce bâtiment vieillir, en fait, enfin ne pas bouger, mais dans un temps qui passe, moi, ça me posait cette question de la mémoire et comment faire avec ça, même personnellement, c'est-à-dire pourquoi j'ai ces moments où je m'enfonce comme ça dans ces temps, dans ce passé, qu'est-ce que ça m'apporte, mais comment je fais avec ça et c'était aussi simple que ça, hein, cette recherche autour de ce bâtiment et voilà, c'est cette idée de faire une animation et de voir le temps passer.
Alors on va voir le film parce que c'est comme ça sûrement qu'on comprendra encore mieux ce que tu dis, mais c'est aussi s'attaquer entre guillemets à une sorte de mythe parce que c'est un endroit qui est devenu au moment où tu fais le film déjà très emblématique, très touristique, qui est utilisé. C'est-à-dire que c'est une mémoire aussi très particulière. Ce n'est pas du tout un endroit sacré comme on pourrait l'entendre, sacralisé en tout cas. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'exploitation en fait de ce lieu. Et donc tu viens chercher, tu disais, quelque chose d'assez pur. Tu voulais quelque chose d'assez pur, sans pathos. Tu t'attaques à un lieu qui, à l'inverse, est vraiment très chargé et très utilisé.
Oui, du coup, pour répondre, c'est... alors, j'ai deux réponses. La deuxième, elle arrivera quand vous aurez vu le film, parce qu'elle est purement technique, en termes de montage ou de travail sur les images. Mais effectivement, dans tous les cas, j'avais un problème, c'est que le lieu tel qu'il est aujourd'hui, c'est pour moi, c'est comme tous les lieux de visite mémoriale. Enfin, pas tous, c'est pas vrai, mais en tout cas, les lieux trop touristiques liés à la mémoire, c'est juste dégueulasse. Enfin, un endroit comme le Dôme aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui font des selfies d'eux-mêmes devant le dôme. Le dôme, on n'y a même plus accès. Alors, plus les années passent, moins on a accès au dôme parce que les plantes qu'ils ont mis, il y a des grilles, ils ont mis les plantes ont poussé, donc on ne peut même plus voir le sol parce que les pierres aussi sont restées au sol, ce qui est très émouvant.